Bonjour, c'est François-Xavier, je suis absolument ravi. Aujourd'hui, ce 4, c'est un jour de gloire. En effet, nous allons ratifier cette merveilleuse constitution qui va nous permettre d'en finir avec ces élections à la con qui ne servent à rien, finalement. Les gueux n'auront plus leur mot à dire. C'est absolument fantastique. Je voulais remercier surtout le Parti Socialiste. C'est des gens dont j'ai dit pique-pente jusqu'à présent. Et ce matin, j'écoutais Moscovici, il est très bien, ce garçon, très bien. Ils sont très bien, ces socialistes. Bravo, voilà. C'était François-Xavier, j'appelle le Stadt. Super, peut-être que je vais revenir en France, ça continue. Ciao.
Oui, ben c'est Marie de la Manif, donc tous à Versailles. Nous sommes quand même assez nombreux et bien que défilons pacifiquement, nous avons une horde de policiers et en plus on a eu le droit aux lacrymos. Génial la démocratie. Mais on est là et on y reste. Allez, je vous embrasse très très fort. Ciao. Salut aux AMG.
Bonjour Daniel, toujours le papy écolo en colère. Je voulais te dire que les manifestations à Versailles, devant le Parlement qui était bloqué, il faut le dire, par des milliers de policiers, heureusement il y avait des milliers de manifestants non violents, intelligents, qui avaient des slogans véristes, vraiment bons, et je dois dire que j'étais fier d'être là. Je dois dire que, quelque part, Monsieur Sarkozy ne doit pas être fier de ses prestations. Il a trahi les Français, il est en train de faire un coup d'État avec le mini-traité modificatif. C'est un coup d'État parce que les Français ont voté contre. Et je dois dire que je pense qu'il sera malgré tout voté, mais quelque part, tous les députés, tous les sénateurs qui voteront pour devront se regarder dans la glace. Et j'espère qu'on pourra savoir les votes qu'il y aura eu. Et on viendra les voir un après l'autre pour leur dire ce que vous avez fait, c'est pas bien. Ça a quelques odeurs de 1942, 43, 44. Salut!
Oui, c'est pour féliciter le président Sarkozy, notre cher président. Voilà, parce que franchement, s'il est en baisse dans les sondages, c'est bien de la faute de ces journalistes, des émissions, surtout là chez vous, là. Il devrait avoir honte, mère, mais honte. Il a de la chance qu'on a un bon président, parce que ce qu'on entend, les guignols qui téléphonent pour traiter de tous les noms, comme l'autre jour l'abruti, franchement, c'est honteux, inadmissible. Vous avez de la chance, mais vous avez vraiment de la chance d'avoir un bon président, parce que franchement, dans les pays communistes, vous ne feriez pas long feu. Vous êtes vraiment payé. Franchement, c'est honteux, inadmissible. Je suis d'accord avec la dame qui appelait tout à l'heure pour la voix de Monsieur Mermet qui rigole comme une... Enfin, soit... Et puis là, le gars qui a parlé, vous avez laissé parler tout à l'heure, pour dénigrer la droite. Mais franchement, ce que M. Sarkozy, qui est-ce qui a libéré les infirmières? Tout ce qu'il fait de bien, il fait rien de bien peut-être. C'est vraiment, vous êtes tous une bande de guignols. On a honte d'entendre ça. Alors, je trouve qu'on a un bon président, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Mais alors Mitterrand, ces deux femmes, là, les socialistes feraient bien de balayer devant leur porte. Parce qu'on a honte de le Mélenchon et toute la clique. Honte de les entendre, honte. Ils n'ont rien fichu, les 35 heures, c'est la merde dans les hôpitaux partout. On est obligé de payer nos médicaments, c'est à cause des 35 heures. Alors ne ramenez pas votre fraise et ne vous faites pas passer des gars qui dénigrent comme là maintenant toute la droite, c'est inadmissible, voilà. Alors vive l'UMP, vive M. Sarkozy.
Salut Daniel, c'est Laetitia de Bondu. Bon bah écoute, là je viens d'écouter ton émission. Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors là franchement, ça me regonfle à bloc. Là c'est vrai que j'ai un petit salaire, moi je suis assistante sociale. Je gagne pas beaucoup, franchement j'ai la motivation de mon boulot. Mais là voilà, d'avoir écouté ton émission, ça me fait du bien. Donc rien pour ça, je voulais juste te laisser un petit message, saluer tout le monde et voilà, bonne journée. Salut.
Ah là voilà, il y a du pour, il y a du contre. Merci à tous pour ces messages. Laissez dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 et pardon et mille excuses à ceux dont les messages ne passent pas. Mais voilà, c'est une faute de temps. On n'a pas 3 heures tous les jours pour diffuser vos messages. Et puis il y en a qui passent pas, mais dont on tient compte. Certains d'ailleurs s'en rendent compte dans les émissions, dans les inflexions, dans les réflexions, etc. Merci à tous en tout cas. Aujourd'hui, le Diplo, chaque mois, vous le savez, on se retrouve avec l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique. Et ce mois-ci, c'est avec Ignacio Ramonet, avec Serge Halimi, avec Dominique Vidal, avec Anne-Cécile Robert et avec Philippe Descamps qui nous parlera de la neige. On va avoir des nouvelles de la montagne, c'est quand même pas si mal. Hein. Et puis, on aura aussi un article comique, figurez-vous. Oui, c'est entièrement nouveau dans le monde diplomatique. Un article rigolo en croisière sur le Titanic avec la droite américaine. Vous savez, il y a des gens, des intellectuels, des penseurs médiatiques, des tous ces gens qui pensent à notre place. Eh bien, il y en a un certain nombre comme ça qui font des croisières, qui font des conférences à bord de ces croisières pour gens assez cossus, assez huppés. Et ce serait assez marrant d'en suivre quelques-uns de ces jours. En tous les cas, là, c'est la bonne grosse droite américaine qui se retrouve dans le climat actuel sur un bateau. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, c'est le diplo du mois. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Oh, 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Xavier Laplanche de Rennes. Voilà, pour montrer mon plein accord avec les propos du président Sarkozy, qui souligne l'importance de rappeler notre attachement aux valeurs religieuses fondatrices de notre civilisation. Je vous invite à faire comme moi et à faire une demande auprès de l'évêché de votre lieu de baptême, si comme moi vous avez été baptisé sans l'avoir demandé. Donc je vous invite à rédiger un acte d'apostasie à l'adresse de monsieur l'évêque de l'évêché de votre lieu de baptême. Merci.
Bonsoir Daniel, donc c'est David là Dumont. J'ai écouté ton émission avec Gérard Filoche et donc là ce soir je regarde un peu les nouvelles sur Yahoo et donc je tombe sur les salariés de l'usine de sous-traitance automobile de BRS donc qui ont séquestré leur PDG qui voulait déménager l'entreprise en douce en Slovaquie quoi. Donc c'était pour faire écho à ton invité qui était plein de comment dire, plein d'espoir. Donc, ce qui est intéressant là dans cet événement là de cette entreprise là dans le Doubs, c'est que c'est le responsable commercial qui a prévenu les salariés que le PDG voulait déménager l'entreprise. Et donc je me demandais si en 68 on aurait vu un responsable commercial prévenir les employés de l'entreprise que le patron, le PDG, voulait déménager l'entreprise. Quoi. Voilà. Donc c'est peut-être un signe d'espoir. Et puis donc. Et je trouve que voilà, c'est l'image du courage que peuvent avoir les gens en ce moment, quoi. Malgré la situation qui est peut-être un peu désespérante, quoi. Voilà. Bonsoir.
Oui, bonjour. J'appelle pour empêcher l'expulsion d'une famille à Brive. Donc une manifestation aura lieu devant l'école Marie Curie à Brive-la-Gaillarde ce mardi 4 à 16h30. Pour empêcher l'expulsion d'une famille, Monsieur Garagiosian Gore et sa famille, qui sont condamnés à l'expulsion d'ici un mois. Donc les parents de l'école Marie Curie soutiennent son désir de rester en France, où ils vivent depuis mars 2005. Leur fils Tigrane est scolarisé à l'école depuis leur arrivée, d'abord à l'école maternelle, et puis au CP de l'école élémentaire Marie Curie. Donc demain, aujourd'hui, en fait, mardi 4 à 16h30 devant l'école Marie Curie à Brive-la-Gaillarde. Qu'on se le dise. Merci, au revoir à tous. C'était Didier en Corrèze.
Ignacio Ramonet.
C'est la première crise néolibéralisme en acte, en quelque sorte, c'est-à-dire tel qu'il s'est développé il y a maintenant une quinzaine d'années.
Serge Halimi.
Ils sont chauffés à blanc dans leurs convictions par Fox News, qui le débite en permanence, cette espèce d'évangile sur la trahison permanente, le fait que les États-Unis sont menacés surtout de l'intérieur parce qu'il y a trop d'intellectuels libéraux, que partout ailleurs, c'est soit l'islam, soit des puissances qui ne veulent pas s'opposer à l'islamisme.
Dominique Vidal.
Il y a un anniversaire, le 60e, de la naissance d'Israël, et au fond d'événements dont les peuples du Proche-Orient en subissent encore les conséquences aujourd'hui.
Anne-Cécile Robert.
Alors là, faut être très clair, on peut être pour ou contre ce traité, c'est plus la question. La question là, c'est le respect de la souveraineté populaire.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis avec Guy Ventil et l'équipe du Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from New York.
Tour de revue de l'édition de février du Monde Diplomatique avec votre édito en une, qui finit avec un point d'interrogation. Crack 2008, parce que jusqu'à maintenant on parlait de crise, de baisse de la croissance, alors que c'est là-dessus que mise notre gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Et vous, vous allez d'étape au-delà, en citant même des spécialistes éminents comme Jacques Attali, pour nous dire qu'on risque d'aller vers une crise.
Bonsoir et bienvenue à tous. Le grand plongeon des bourses partout dans le monde.
Une dégringolade mondiale. De l'Asie à l'Amérique latine en passant par l'Europe, toutes les places boursières ont connu un lundi noir.
Les bourses ont connu un lundi noir.
La crise est bien là. Pour Nicolas Sarkozy, cette crise est avant tout financière, mais la France serait moins touchée.
C'est aujourd'hui à 11h30 que Jacques Attali remet son rapport pour libérer la croissance.
Il contient 314 propositions, dont 20 mesures jugées fondamentales. Jacques Attali a prévenu, si on veut relancer la France d'ici 2012, il faudra adopter toutes ces mesures. Jacques Attali a prévenu.
Oui, il faut dire que cet édito a été écrit avant le lundi 21 janvier, donc lundi noir.
Ignacio Ramonet.
Parce que nous sentions bien ici à la rédaction que la situation, disons, financière internationale n'était pas du tout stable, était très préoccupante. Et ça s'est confirmé en tout cas qu'il y a maintenant des menaces de crise et qu'il peut y avoir même un krach, car nous ne sommes que dans les débuts de ce que peut être une vraie crise. Et alors, par ailleurs, évidemment, le point d'interrogation, c'est parce que nul n'est autorisé à décréter comme ça qu'il y aura un krach. D'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable, à la limite? Mais en tout cas, les circonstances indiquent bien que la situation est préoccupante. Et effectivement, je cite en particulier deux spécialistes, ils sont pas quand même connus.
On les dit pas souvent dans le diplôme.
Pour leur anticapitalisme, en tout cas, c'est Jacques Attali et Michel Rocard. Et vous voyez que tous deux ont fait des déclarations très préoccupantes, et pas ces derniers jours, mais dès le mois de décembre dernier. Par exemple, Jacques Attali prophétise, il dit bientôt la bourse de New York, caution de la pyramide des emprunts, s'effondrera. Voilà ce qu'il il propose, et sans point d'interrogation. Et quant à Michel Rocard, il renchérit encore, parce que dans un autre article, d'un autre hebdomadaire français, il dit tout simplement, j'ai la conviction, il ne doute pas, il dit, j'ai la conviction que ça va bientôt exploser, que le système financier va bientôt exploser. Et effectivement, ce qui s'est produit lundi montre bien que on est arrivé maintenant à un stade d'irrationalité, de folie dans les systèmes financiers, un degré de sophistication, d'obscurité, d'opacité dans le fonctionnement même des instruments nouveaux financiers qui ont été mis au point au cours des dernières années, que plus personne ne maîtrise le système. Je veux dire, quand l'affaire Kerviel, qui est postérieure à l'écriture de ce texte, même si dans ce texte déjà on annonce les pertes colossales de la Société Générale, qui étaient tout de même connues d'un certain nombre de spécialistes, quand on voit qu'un seul opérateur peut manipuler 50 milliards d'euros, ce que ça signifie, c'est pratiquement le budget d'un petit pays, et que, bien sûr, il peut perdre, de même qu'il peut gagner, mais il peut perdre, comme il l'a fait, il a perdu 5 milliards d'euros. C'est finalement les structures de ce jeu financier qui montrent bien le délire dans lequel nous sommes entrés.
C'est ce que j'allais vous demander, parce que tous les observateurs, à commencer par ceux de la Société Générale, par les dirigeants, ont dit c'est le facteur humain, c'est l'individu qui a grippé la machine. Vous dites c'est systémique.
Et bien entendu, c'est systémique, et d'ailleurs la crise est systémique, et on le voit bien, parce que c'est une crise en quelque sorte, c'est une fuite en avant, voilà ce qui s'est produit. Et dans ce texte-là, on essaie de rappeler un petit peu les éléments qui ont conduit à cette crise. Cette crise, en quelque sorte, a commencé par une précédente crise, la crise des valeurs Internet, qui a eu lieu en 2001, avec l'effondrement de ce qu'on a appelé la bulle des nouvelles technologies. Il y avait une folie des nouvelles technologies. Quand cette bulle s'est effondrée, M. Alan Greenspan, qui était à l'époque donc le président de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, a décidé en quelque sorte, ne pas décourager les investisseurs, mais de canaliser l'énergie des investisseurs, et ceux en particulier qui se retiraient de la bulle Internet, a décidé de les canaliser vers l'immobilier. Et donc, en créant des instruments nouveaux, d'abord en baissant les taux de la Réserve fédérale, et en proposant précisément des systèmes de crédit avec abondance de liquidités, parce que, encore une fois, on avait joué là en disant, il faut surtout pas faire comme en 29. En 29, on a asséché les liquidités, les banques n'ont pas prêté, donc la crise est devenue très grave. Ici, on a inondé le marché avec énormément de liquidités, ce qui était sans doute une mesure pour compenser 29, mais cette mesure, dans le contexte actuel, a créé la nouvelle crise qui est, on a prêté sans trop regarder, l'important c'était que la consommation se maintienne, exactement ce qu'on dit actuellement, on entend bien les mêmes dire la même chose, il faut absolument que le marché intérieur se poursuive, parce que c'est ça qui fait fonctionner la machine, c'est le moteur de la machine. Et donc, on est allé jusqu'à inventer des systèmes de crédit, en particulier pour des millions de foyers qui n'avaient pas beaucoup de ressources, qui n'avaient pas de ressources en raison de la situation, disons, de l'économie réelle, puisqu'il y a moins de travail, il y a une précarisation, etc. Il y a les working poor, etc. aux États-Unis. Mais malgré ça, on leur a prêté avec des systèmes de taux variables et avec des systèmes où, au début, on paie très très peu. Et puis, on part du principe que le bien qu'ils ont acquis vont acquérir de la valeur. Donc, ils vont être plus riches virtuellement. Et donc, ils vont pouvoir payer des taux plus importants plus tard. Donc cette espèce de système, alors qu'en réalité, ils restaient avec leur travail précaire, avec leur salaire réduit. Donc,
ils étaient virtuellement riches. Seulement.
Ils étaient virtuellement riches, c'est-à-dire psychologiquement riches, bien sûr, dans un système où la bulle financière s'est développée. Mais les banques de crédit, les banques qui ont effectué ces crédits, savaient, ces crédits, on les a appelés des subprimes, c'est ça, les subprimes, savaient que ces crédits étaient extrêmement dangereux. Donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est essayer de refiler une partie de ces crédits à d'autres banques en les titrisant, hein, c'est-à-dire en faisant des titres de crédit. Et ces titres ont été achetés par des banques à l'échelle internationale. Et c'est là où on revient à cette idée qu'il y a des instruments financiers aujourd'hui avec lesquels on travaille dans les marchés, parce qu'on voit qu'ils ont de la valeur, ils sont demandés, mais on ne sait pas très bien à quoi ils correspondent. Et donc, le système général, ce système financier qui fonctionne donc 24 heures sur 24, etc., sur les autoroutes de la communication, ben, ce système a été complètement gagné par une épidémie, par un virus, le virus des subprimes. Et lorsque la Réserve fédérale, pour d'autres raisons, a commencé à augmenter ses taux, pour combattre l'inflation en particulier.
À partir de 2005, vous dites.
À partir de 2005, il est évident que beaucoup de foyers se sont retrouvés dans l'impossibilité de payer, puisque leur taux de crédit était indexé sur le taux de la Réserve fédérale. Et à ce moment-là, on a appris qu'il y a des millions de foyers, environ 3 millions de foyers, au moins aux États-Unis, qui sont aujourd'hui insolvables, qui ne peuvent pas payer ces 3 millions de maisons, en quelque sorte, ce qui s'élève à une somme qui a été calculée à environ 200 milliards, donc de pertes. Ces 200 milliards ont été dispersés dans énormément de banques. Donc, on a vu que le système aujourd'hui, d'une manière foudroyante, a été atteint par cette épidémie. Alors, c'est donc systémique, si vous voulez. Le problème, c'est que désormais, ça risque de se transférer à l'économie réelle. C'est ça la grande peur. Quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de récession aux États-Unis, puisque c'est la question, la croissance sera diminuée. Quel est l'espoir maintenant d'un certain nombre d'économistes ? C'est que les économies asiatiques prennent la relève de l'économie américaine. C'est ça maintenant. Dans une certaine mesure, si vous voulez, c'est la croissance interne de la Chine qui peut sauver la machine économique internationale. Donc les conclusions que l'on peut tirer de cette situation sont les suivantes. C'est la première crise, à mon avis, de, disons, ce qu'on appelle la globalisation financière, hein, c'est-à-dire c'est la première crise du néolibéralisme en acte, en quelque sorte, c'est-à-dire tel qu'il s'est développé il y a maintenant une quinzaine d'années. C'est la première crise. En tout cas, ça donne des arguments à tous ceux, et ce journal l'a fait assez souvent, qui critiquaient ce système et qui énonçaient un certain nombre, disons, de périls et de dangers qui existaient. Deuxièmement, c'est aussi, si vous voulez, l'entrée en scène dans le domaine financier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, de la Chine et d'autres puissances asiatiques. De ce point de vue-là, si vous voulez, je pense que c'est aussi, ça peut être un signe complémentaire du déclin de l'Occident, ou de la transition dans laquelle nous sommes, hein, où on va voir de plus en plus la Chine, d'autres puissances asiatiques en particulier, devenir un élément très important du système international. Et troisième idée, c'est que une fois de plus, les citoyens aujourd'hui sont les victimes d'un système financier qui est devenu fou, qui n'est plus contrôlé par les propres artisans, les propres architectes de ce système, et donc raison de plus pour essayer de le corriger radicalement.
C'est à Bernanke de faire quelque chose. Il faut qu'il se bouge le cul. Ça donne une idée du bordel dans lequel on est. Mais Bernanke qui fait son universitaire à la noix. Mais putain, mais qu'il écoute deux secondes. Il n'a aucune idée du bordel dans lequel on est. Aucune. Aucune merde. Moi j'ai parlé au patron de quasiment toutes ces boîtes et je peux te dire qu'il n'a aucune idée de ce qui se prépare. Aucune. Les gens avec lesquels je bosse, ça fait 25 ans qu'ils font. Ils vont perdre leur boulot et ils vont perdre leur boîte. Il est fou quoi, merde. Ils sont nuls, nuls à chier. Et la Fed qui se bouge pas le cul, putain.
Ok, du calme. Je sais que c'est un sujet sensible qui vous tient à cœur, mais beaucoup de gens disent qu'il y a un certain type de prêt, d'accord, qu'on ne peut plus faire.
Personne peut obtenir un prêt aujourd'hui s'ils sont pas aussi riches que moi. Qu'ils baissent les taux, c'est tout.
Mais Clément, c'est la semaine prochaine, on baisse les taux. Ce sera la fin du monde.
No, we have Armageddon. Mais on est déjà à la fin du monde.
We have Armageddon.
On est déjà à la fin du monde.
Tuesday, the biggest, most anticipated race heats up. Super Tuesday, News Channel 4 brings you total coverage. 24 states, including New York, New Jersey, Connecticut, vote for the next nominee. On air, online, and on digital TV. Breaking reports.
Surprises on both sides tonight.
The big issues facing the candidates.
Another fierce battle.
In-depth analysis of the race. Super Tuesday. Three places to watch. Decision 2008 on News Channel 4.
Serge Halimi, je vous mets en contribution. Vous n'avez pas écrit d'article dans cette édition du Monde Diplomatique, mais il y a un papier en une de Johan Hari, un journaliste américain, qui est proprement hilarant. C'est suffisamment rare dans la une du Diplo pour pouvoir être mentionné. C'est l'histoire d'une croisière sur le Titanic de la droite américaine, organisée pour les lecteurs du National Review, qui est une des bibles des conservateurs, et ça prend un peu des airs de Radeau de la Méduse.
Oui, c'est un auteur britannique qui a rédigé cet article. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, les journaux ont l'habitude, pour obtenir des fonds supplémentaires, d'organiser des croisades avec leurs lecteurs.
Des croisières.
Mais dans le cas d'espèce, c'est aussi une croisade avec leurs lecteurs, qui ont des moyens, parce que ça coûte pas mal d'argent.
$1,200, parenthèse.
Non, $1,200, ça peut être beaucoup plus. Et là, c'est donc la National Review, qui est l'une des revues de droite les plus vénérables aux États-Unis, qui était lue régulièrement par Ronald Reagan quand il était à la Maison Blanche, qui a été lancée par William F. Buckley, qui est l'une des personnalités marquantes du conservatisme américain, qui a rassemblé en quelque sorte ses lecteurs pendant ces quelques jours. Et alors, la caractéristique de cette croisière, c'est qu'on voit toutes les tendances, en quelque sorte, de la droite républicaine qui s'y retrouvent et qui, pour une fois, sont unies. On va voir qu'elles ne sont plus du tout unies à l'heure actuelle. Mais dans cette croisière, vous avez à la fois les libéraux économiques, vous avez les anticommunistes qui sont devenus des anti-islamistes. Alors avant, c'était la guerre contre l'empire du mal, comme disait Ronald Reagan. Et puis après, avec Bush, on a complètement changé de vocabulaire, puisque ça a été l'axe du mal lorsqu'il s'est agi de l'islam. Ensuite, vous avez les moralistes religieux, qui est une tendance qui a gagné en puissance aux États-Unis à partir de 1973, de la légalisation de l'avortement, et qui représente maintenant une composante de masse du Parti républicain, une composante de masse, et souvent une composante populaire, qu'analyse très bien d'ailleurs Thomas Frank dans son livre « Pourquoi les ouvriers votent à droite ». Et enfin, dernière tendance, qui est très puissante depuis quelques années, la tendance anti-immigration. Vous avez donc en quelque sorte le capital, l'armée, l'Église, l'américanité. Et lors de cette croisière, les quatre sont réunis et sont en quelque sorte unis sur ces points-là. Il n'y a pas de doute que tous estiment qu'il faut défendre le capital, qu'il faut défendre l'armée, qu'il faut défendre l'Église et qu'il faut défendre l'américanité. Alors, on les voit en quelque sorte interagir
dans une espèce de huis clos.
Dans une espèce de huis clos nautique, assister à des conférences, et on voit quelqu'un comme William F. Buckley, qui est vraiment le père du conservatisme américain, qui est dépassé, presque épouvanté, parce que ses enfants sont devenus, qui n'arrivent pas à les reconnaître, qui pensent que le conservatisme, c'est un certain sens de la mesure, et qui entend des propos qui sont hallucinants, même à ses yeux. Je précise que ça n'est vraiment pas un centriste, William F. Buckley. Il a écrit un livre dans les années 50, c'est-à-dire en pleine période du maccartisme, pour protester contre le politiquement correct marxiste dans les universités américaines. Donc il fallait déjà avoir une vision quand même sacrément conservatrice. Et on le voit donc entendre ces gens qui interviennent, qui ont une vision complètement fantasmatique de ce qu'est le monde. On a l'impression qu'ils sont dans leur bulle et que le monde est aussi une espèce de bulle qu'ils maîtrisent assez mal, puisqu'ils imaginent que l'Europe est complètement islamisée, qu'il y a tellement de musulmans en Europe qu'on ne peut plus, en quelque sorte, asseoir une défense de la civilisation et une défense de l'Occident sur ces pays qui sont, en quelque sorte, gangrénés de l'intérieur. Et tout l'objet de l'article, c'est donc de nous montrer comment fonctionne, en quelque sorte, l'imaginaire de la droite américaine, même si, encore une fois, il faut le voir, c'est un imaginaire un peu particulier qui concerne surtout le haut du panier en termes de ressources et puis des gens plutôt âgés. Mais lorsque vous voyagez aux États-Unis, des gens comme ceux qu'on entend dans la croisière, il y en a évidemment partout. Ils sont chauffés à blanc dans leurs convictions par Fox News, qui le débite en permanence, cette espèce d'évangile sur la trahison permanente, le fait que les États-Unis sont menacés surtout de l'intérieur parce qu'il y a trop d'intellectuels libéraux, que partout ailleurs, c'est soit l'islam, soit des puissances qui ne veulent pas s'opposer à l'islamisme, que la religion est en quelque sorte corrodée de l'intérieur par des juges qui sont ultra-gauchistes.
Et c'est que la situation va pas si mal en Irak.
Que la situation va pas si mal en Irak depuis que des renforts ont été envoyés dans ce pays, que tous les récits sur ce qui irait mal en Irak sont des récits qui sont en quelque sorte concoctés par une presse gauchisante. Donc il y a tout cet imaginaire qui s'exprime au cours de cette croisière, qui est aussi une croisade.
You're watching Fox News.
Like to be premier journalists. We'd like to restore objectivity.
We hope you depend on us for the truth because we're going to report the situation in Iraq without an agenda or any ideological prejudice.
Once the war against Saddam begins, we expect every American to support our military, and if they can't do that, to shut up.
It's Al-Qaeda operatives in Iran training in aircraft to fly into either buildings in a 9/11 style attack.
Iran is the central banker of international terrorism.
Barack Obama is associated with a racist church.
They really are quite cultish, quite separatist.
Mr. Rush, Sam Combs, I have a question. Are you questioning Barack Obama's Christianity?
Yeah.
Mais simplement, ils butent parfois contre la dure réalité des faits, c'est-à-dire que cette droite conservatrice américaine a perdu le Congrès.
Elle a perdu le Congrès et elle risque de perdre la Maison-Blanche. Enfin, de son point de vue, quelle que soit l'issue de l'élection, elle risque de ne pas en être satisfaite. Cette droite pure et dure sur ces quatre points que j'évoquais, l'armée, le capital, l'Église et l'américanité, si c'est John McCain qui est par exemple le grand favori là à l'heure actuelle dans la course républicaine, McCain n'inspire pas confiance aux moralistes religieux. Il est opposé aux mesures très restrictives en matière d'immigration qu'adore le petit peuple républicain et lui il a voté contre. Et il est d'ailleurs détesté pour cela par exemple Rush Limbaugh, qui est l'animateur de radio ultra conservateur qui écoute des dizaines de millions d'Américains chaque semaine et qui mène une croisade, lui, contre John McCain. Et par ailleurs, même s'il est libéral en matière économique, comme tous les républicains, il est opposé à toute baisse d'impôts qui ne serait pas gagée sur une baisse des dépenses publiques. Or, avec Bush, il y a eu la baisse des impôts, mais il n'y a pas eu la baisse des dépenses publiques, puisqu'il y a eu un envol considérable des dépenses, notamment militaires. Donc, sur tous ces points, en quelque sorte, il n'inspire pas confiance à ceux qui participent à la croisière. À un moment, on le traite même de traître, parce qu'il s'est opposé à la torture, à la généralisation de la torture.
Parce que lui-même a été torturé.
Il a été prisonnier de guerre, donc il a pris des positions qui étaient en rupture avec la base républicaine sur ces points précis. Donc il n'inspire pas confiance aux gens qui ont participé à cette croisière. Ceci dit, il est certain qu'ils vont se regrouper autour de lui, parce que s'il y a vraiment une chose qu'ils abhorrent, c'est l'idée même qu'Hillary Clinton ou Barack Obama, mais en particulier Hillary Clinton, puisse être présidente des États-Unis. Et je pense que une fois que la désignation du candidat démocrate sera opérée, tous ces gens-là se regrouperont autour de McCain, mais en quelque sorte en faisant contre mauvaise fortune bon cœur.
From Miami, FLA, hitchhiked her way across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her leg, and then it was she says, hey babe, take a walk on the white side, said, hey honey, take a walk on the white side. Came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was giving her head, she says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey babe, take a walk on the white side. And the cold girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay the pay. A hostel here and a hostel there. New York City, in the place where they said, hey, babe, take a walk on the white side. I said, hey, Joe, take a walk on the white side. Didi-ki-bi, didi-ki-ba, didi-ki-bi, didi-ki-bu.
Suite de l'édition du Monde diplomatique de février 2008, avec vous, Dominique Vidal, qui n'avait pas écrit d'article non plus,
non.
Mais si ce n'est un débat que vous relancez en France, un débat qui parcourt la société israélienne depuis une vingtaine d'années, sur tous ces courants, d'historiens en particulier, qui ont brisé le mythe fondateur de la création d'Israël. Et vous étudiez avec Sébastien Boussois les conséquences et les suites de ce débat historique, qui est éminemment politique et social en Israël, qui, partant à peu près des mêmes prémices, même si nous politiquement pas les mêmes couleurs, tire des conclusions radicalement différentes.
Oui, si vous voulez, on aime beaucoup maintenant en France, une tendance médiatique très nette, parler en termes d'anniversaire. Alors en fait, on a un double anniversaire. Il y a un anniversaire, le 60e, de la naissance d'Israël, et au fond d'événements dont les peuples du Proche-Orient subissent encore les conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ONU avait prévu de partager la Palestine en un État juif, un État arabe, et puis une zone internationale pour Jérusalem. Ça, c'était le 29 novembre 1947. Le 14 mai 48, donc il y a 60 ans, Israël naît. Le 15 mai, les armées arabes interviennent. Et on finit au printemps 49 avec une toute autre carte. Puisque on a un État d'Israël qui a vu le jour, qui a augmenté son territoire d'un tiers, qui a chassé de son territoire les 4/5 des Palestiniens qui y vivaient, et puis un État arabe mort-né, dont Israël, la Jordanie, l'Égypte se partagent les dépouilles. Et au fond, cette négation du droit à l'autodétermination des Palestiniens aux côtés des Israéliens, leur droit à un État, une patrie, comme disait François Mitterrand, c'est ça qui est au cœur de toutes ces guerres, de toutes ces tensions, de tout ce terrorisme qui se sont développés depuis 60 ans. Donc ça, c'est un anniversaire. Et puis l'autre anniversaire, celui dont vous parliez, c'est 20 ans de nouvelle histoire. Au fond, ces chercheurs, Benny Morris, Ilan Pappé, bien d'autres, dont on va parler sans doute, ces chercheurs, ils ont trouvé dans les archives israéliennes, qui se sont ouvertes 30 ans après les événements, ces historiens ont trouvé de quoi complètement réécrire l'histoire de la naissance de leur État, et donc de la naissance du problème des réfugiés palestiniens. J'embraye maintenant sur votre question, j'essaie de la cadrer un tout petit peu historiquement. Il n'y a plus le même débat qu'il y a 10 ans lorsque j'avais fait ce livre. Il y a 10 ans, c'était est-ce qu'il y a eu fuite ou est-ce qu'il y a eu expulsion ? Aujourd'hui, tout le monde, grosso modo, parmi les historiens israéliens, reconnaît qu'il y a eu expulsion. Le débat, il est de savoir si cette expulsion est née de la guerre et non d'une intention juive ou arabe, comme dit Benny Morris, ou bien si elle est le résultat d'un plan d'expulsion systématique. C'est la thèse d'Ilan Pappé. Et on voit bien que là-dedans se joue une partie de l'avenir, parce que si les Palestiniens ont été expulsés, alors leur droit au retour, sous des formes à négocier, bien sûr, s'impose. S'ils ont fui, la question historique est plus complexe. Donc c'est à ce niveau de débat qu'on se trouve aujourd'hui, et c'est vrai, je dois le dire personnellement, puisque dans mon livre, dans la première version du livre, je mettais en avant ce qu'avait fait Ilan Pappé, mais avec un certain nombre de réserves. Je dois dire que le nouveau livre d'Ilan Pappé, qui paraît en français chez Fayard et qui s'appelle « Le nettoyage ethnique de la Palestine », c'est son titre anglais qui a été laissé par Fayard comme titre français, c'est une somme extrêmement convaincante. C'est-à-dire on ne peut pas nier qu'il y ait toute une série d'éléments qui aillent dans le sens de la thèse d'un plan d'expulsion, même s'il reste un certain nombre de points d'interrogation. Deuxième livre extrêmement intéressant qui paraît chez Buchet-Chastel, c'est un livre d'Avi Shlaim, qui est un historien israélien qui vit en Grande-Bretagne depuis fort longtemps, et qui trace 60 ans de politique arabe d'Israël, des rapports entre Israël et ses voisins. Et il le fait sous le titre « Le mur d'acier ». Alors peut-être que vos auditeurs, comme nos lecteurs, ont une petite idée comme ça, vague, de ce que c'est que le mur d'acier. C'est la thèse du leader de l'extrême droite juive des années 20 et 30, Zev Jabotinsky, qui disait, reconnaissant la qualité et la force morale et politique des Arabes, si on veut les vaincre, il faut imposer des rapports de force écrasants, ce qu'il appelait le mur d'acier. Et au fond, ce que montre Avi Shlaim, et c'est très intéressant, c'est qu'au fil des décennies, cette théorie du mur d'acier, qui était issue de l'extrême droite sioniste des années 20 et 30, elle est devenue le bien commun de l'ensemble des dirigeants israéliens, qu'ils soient de gauche ou de droite, pendant toutes ces années qui vont de 48 à 2008, à nos jours, avec cette petite parenthèse, évidemment extrêmement importante et porteuse, quelque part, d'un espoir, qui est celle du début des accords d'Oslo et de la rupture par Yitzhak Rabin avec cette tradition politique-là. Troisième livre dont je voudrais dire un mot, au passage, c'est celui d'Avraham Bourg. Alors lui n'est pas un historien, lui c'est un ancien président de l'Organisation sioniste mondiale, ancien président de la Knesset, de l'Assemblée israélienne, et qui publie un livre qui a gardé lui aussi son titre anglais, il s'appelle « Vaincre Hitler ». Pourquoi « Vaincre Hitler » ? Parce que Avraham Bourg exprime une vision extrêmement critique du judaïsme tel qu'il est conçu et vécu en Israël, et lui oppose un judaïsme plus universaliste, plus critique, plus ouvert d'une certaine manière. Et quand on rentre bien dans son livre, c'est un très beau livre à mon avis, très personnel, hein, c'est sur le ton du jeu, on mesure une chose que souvent ici en France on n'arrive pas à comprendre, c'est que le génocide n'a pas eu seulement pour effet de tuer 6 millions de juifs. Il a eu aussi pour effet d'éradiquer leur culture, leur tradition, tout ce qu'ils portaient de vie et de création avec eux. Et donc, Bourg dit au fond, ce judaïsme traumatisé par la Shoah, ça n'est pas mon judaïsme. Il dit, mon judaïsme, c'est celui d'avant, c'est pas celui des persécutions, même s'il y en a eu tout au long de ces siècles. C'est celui de ces cultures juives plurielles, créatrices. Disons que le judaïsme, pour aller vite, essayer de simplifier, c'est Auschwitz, bien sûr. Ça ne peut pas ne pas être Auschwitz, encore 60 ans après. Mais c'est aussi Maïmonide, Spinoza, Freud, Einstein. C'est une autre vision d'une culture, d'une religion, à certains égards, qui a été porteuse de création et porteuse d'apport à l'histoire de l'humanité. Donc voilà trois livres qui arrivent sur les tables des librairies. Et ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'ils vont arriver évidemment au Salon du Livre, qui se tient à la mi-mars. Le Salon du Livre, tout à fait logiquement, a invité Israël pour
le 60e anniversaire.
Rien à dire, au contraire. Mais Pour des raisons qui m'échappent, la direction du Salon du Livre a pensé qu'il fallait réserver le salon aux romanciers. J'ai rien contre les romanciers israéliens, il y en a beaucoup, et de prestigieux, que ce soit Oz, ou que ce soit Yehoshua, ou Kenaz, ou bien d'autres.
Qui parlent de politique aussi.
Qui parlent souvent de politique, mais pourquoi ne pas avoir invité des historiens, des sociologues qui témoignent de tout ce débat dont Sébastien Boussois a fait la postface de mon livre « Comment Israël expulsa les Palestiniens ». Et donc, j'ai pris l'initiative de proposer aux éditeurs de tous ces livres d'organiser nous-mêmes, au Salon du Livre, un débat. Avec Ilan Pappé, avec Avi Shlaim, avec Idit Zertal, qui a fait un livre dont on avait parlé dans le monde diplomatique, remarquable sur les rapports entre la Shoah et le discours politique israélien, ça s'appelait « La nation et la mort », de débattre ensemble au Salon du Livre.
C'est le salon off.
C'est le salon off, voilà. On est dans le off et dans le in, mais ce qui est bien, c'est que le off est dans le in. C'est ça qui est formidable. Donc on va avoir le 18 mars à 19h un beau débat sur toutes ces questions avec ces représentants d'une intelligentsia que parfois on a tort de ne pas voir comme elle est, c'est-à-dire une intelligentsia vivante, en train d'essayer d'innover, de débattre, de faire comprendre, de comprendre elle-même d'ailleurs l'histoire et les problèmes de ce pays. Et je crois que c'est important qu'on puisse le faire.
Philippe Descamps, bonjour.
Bonjour.
On continue cet entretien sur le numéro de février du Monde Diplomatique avec vous qui êtes depuis le studio de France Bleu Isère à Grenoble, puisque vous êtes le rédacteur en chef de Montagne Magazine et vous signez dans le Diplo de ce mois-ci « La montagne victime des sports d'hiver ». Et c'est vrai que, enneigement ou pas, le portrait que vous dressez de la station de ski est plutôt noir, quoi. Sous la neige, on voit le béton.
On aime la montagne, hein, et c'est pour ça qu'on aime y aller et qu'on constate en fait l'échec d'un modèle. Hein. Aujourd'hui, en fait, la conquête des montagnes était un peu vécue comme une ruée vers l'or. On appelait ça l'or blanc, la ruée vers l'or blanc. Et on a l'impression aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de dire que ce filon-là, il est épuisé. C'est-à-dire que la montagne a toujours été un défi pour les hommes. C'est-à-dire que la pratique de la montagne, c'est de s'adapter à la montagne. Et en fait, on a construit un modèle complètement artificiel où il s'agissait d'adapter la montagne aux pratiques des gens.
Et ça a été un copier-coller d'un modèle de développement où on a dit on va tout construire, tout bétonner, on aura des clients captifs qui vont venir, ça sera la poule aux œufs d'or.
Voilà. Et on décide de construire des lits par milliers, par dizaines de milliers, et avec une situation qui se révèle 30 ans après assez caricaturale, parce qu'on a eu des investissements publics, et beaucoup de pertes publiques, et des profits privés, puisqu'on a un système finalement qui a encouragé les constructions de façon complètement déraisonnée, sans tenir compte d'autres exemples qui étaient beaucoup plus rationnels, des exemples de voisins de Suisse ou d'Autriche. Alors ce qu'il faut dire, première chose, c'est qu'il y a très peu de Français qui vont faire du ski, hein, et il y a de moins en moins de Français, on peut dire, qui vont faire du ski. Ça représente, pour dire, l'hiver dernier, 6% des Français qui vont faire du ski en station, sur le modèle du ski mécanisé avec remontée mécanique, ce qui est rien.
Mais parce que vous dites, la dépense moyenne, c'est minimum 1 500 euros pour une semaine, pour une famille.
Oui, encore en se débrouillant bien, c'est le minimum. C'est un sport de riche, c'est devenu un sport de riche. Et de plus en plus, on a une accélération du phénomène. Finalement, étant donné que la demande ne suivait plus, la stratégie des acteurs du monde de la montagne a été dit, eh bien, on va faire des croissances en valeur, on va aller chercher les étrangers. Et on va aller chercher les gens qui ont de l'argent. Et finalement, on a fait que réduire le public. Et de tout le rêve qu'on a essayé de vendre dans les années 70-80 de la montagne pour tous, eh bien, on s'aperçoit qu'il s'évanouit, ce rêve. Il est complètement fictif. C'était un leurre, en fait, aujourd'hui. Deuxième point qui est essentiel, c'est-à-dire que la montagne, c'était censé faire rêver, et ce que l'on a construit en montagne ne fait pas rêver. Il suffit d'aller en station pour s'apercevoir qu'on est loin, très très loin du rêve, qui ne correspond non plus à aucune identité. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ont envie de connaître la montagne, les gens qui y habitent, etc. Mais on ne leur présente pas ça, puisque l'identité alpine, elle a été gommée. L'identité alpine, aussi bien du point de vue de la nature, c'est-à-dire du point de vue de la flore, de la faune, et surtout du point de vue du patrimoine humain, elle a été complètement balayée par les constructions des stations. On est typiquement dans une situation de fuite en avant. C'est-à-dire que face aux difficultés, on dit on va investir plus. Et on a chaque année des investissements qui montent, qui montent, qui montent. Et on investit dans quoi ? On va investir dans des palliatifs. Par exemple, les canons à neige. Évidemment, les canons à neige, ça peut avoir une certaine utilité, comme à point, etc. Mais concevoir un modèle autour de canons à neige, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les canons à neige, premièrement, ils ne pourront faire de la neige que s'il y a du froid. Et le problème actuel du réchauffement, c'est plus un problème de température qu'un problème de précipitation. Donc, ça ne répond pas exactement. Et alors, ça conduit surtout à artificialiser davantage encore le rapport au ski, à la nature. C'est-à-dire qu'on va maintenant faire de la montagne sur de la neige artificielle, dans des structures artificielles, avec des appartements qui correspondent à rien et sans voir de gens qui habitent localement. Donc on crée finalement des espèces de bulles en montagne qui n'ont rien à voir avec la montagne.
En fait, ça va très vite ressembler d'aller en Haute-Savoie, ça va bientôt ressembler à aller à Dubaï, comme on l'a fait pour la Bassi J'y suis, faire du ski par 50 degrés sous une coque de béton avec des chers et des émirs qui ont sur une piste artificielle.
Oui, peut-être qu'un jour, s'ils savent faire des bons prix, ils arriveront à attirer davantage les clients que certaines stations de sport d'hiver. Parce que je veux dire aussi, c'est que la montagne, c'est pas ça, quoi. Moi, j'habite à côté de Grenoble. Autour de Grenoble, tous les week-ends, les gens prennent leurs raquettes, leurs skis de fond, leurs skis de randonnée et montent. Il suffit d'aller n'importe où en montagne autour de Grenoble et on trouve énormément de gens. Il n'y a jamais eu autant de gens en montagne, des gens qui se déplacent par leurs propres moyens, qui, quand ils peuvent, prendre les transports en commun, même s'il n'y en a pas beaucoup en France comparé à d'autres pays voisins, et vont prendre l'air, faire du sport, découvrir la nature. Ils n'ont pas besoin d'aménagement, ils n'ont pas besoin de station, ils n'ont pas besoin de remontée mécanique.
Bah voilà, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ils n'ont pas de forfait, ils n'ont pas de location, ils ne font pas contribuer, ils ne font pas marcher l'économie aussi, ces gens-là.
Mais si, parce qu'ils peuvent avoir besoin de professionnels pour les accompagner. Ils auront plaisir à venir manger une bonne raclette ou à manger un vrai plat du pays dans un gîte si on sait les accueillir. Ils auront plaisir aussi à louer le matériel qui est nécessaire. Enfin, il y a une économie potentielle à condition qu'on parte de pratiques des gens et qu'on n'artificialise pas, qu'on n'imagine pas un cadre trop serré. Les gens, ils ont besoin de pouvoir varier leur plaisir, leur rapport à la montagne. Et surtout, l'important est de ne pas effacer le but premier. Le but premier, c'est d'aller découvrir quelque chose qui est différent, qui est un inconnu. C'est ça la démarche du montagnard.
Ah, les enfants, une petite piste pour les enfants. Là, on s'enfonce un petit peu dans la neige. Ah, on doit pouvoir monter par l'escalier là. Voilà, regarde. Voilà. Alors là, on a une vue imprenable sur les pistes. Les remontantes. La piste noire, la piste rouge, la piste verte. Et on attend le passage de Give. Voilà Give. Wow!
Le saut du Congrès fait foi. Le Parlement a modifié un alinéa de la Constitution. Le traité de Lisbonne sera donc adopté par les députés et les sénateurs. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. L'alliance d'intérêts qui aurait pu bloquer le texte était trop hétéroclite. S'ils sont peu nombreux à droite à avoir des états d'âme, ce recours à la voie parlementaire après le non des Français en 2005 divise surtout les socialistes. Résultat de ces positions byzantines, il y eut presque autant d'abstention que de votes contre, loin de pouvoir peser sur le texte.
Anne-Cécile Robert, un mot aussi, là, ça devient plus un mensuel, ça devient un hebdomadaire. Maintenant, on parle de l'actualité au jour le jour, à savoir la Constitution européenne.
Nous avons beaucoup écrit dans le monde diplomatique sur le traité constitutionnel européen et malheureusement l'actualité d'aujourd'hui donne raison à nos pires craintes puisque le texte qui a été rejeté par les Français le 29 mai 2005 est en train de leur être imposé par un coup de force institutionnel du président de la République et d'une majorité d'élus et c'est un événement très grave puisque je vous rappelle que le président Sarkozy avait dit lors de son débat avec Ségolène Royal le traité constitutionnel est mort et il avait dit qu'il ferait un mini-traité. On a Aucune de ces deux promesses n'a été remplie, puisque le traité constitutionnel est de retour sous le nom de traité de Lisbonne. Tous les observateurs le disent, aussi bien Valéry Giscard d'Estaing que Pierre Moscovici disent que le traité de Lisbonne reprend point par point le traité constitutionnel. Et utilisant une constitution française très autoritaire, le président de la République est en train de nous imposer ce texte. Ce qui est grave, c'est que les élus, les parlementaires avaient la possibilité d'obliger le chef de l'État à un référendum. Pour ça, il leur suffisait de voter non à la révision constitutionnelle nécessaire à cette ratification. Il fallait 2/5 des élus. Ce faisant, ils se rendent complices du coup de force présidentiel et d'une atteinte sans précédent à la souveraineté populaire dans ce pays. Et il est tout à fait étonnant de voir à quel point, quand il s'agit de la construction européenne, les raisonnements ne sont plus normaux. J'entendais Madame Ségolène Royal dire l'autre fois « Oui, bien sûr, il aurait fallu faire un référendum, mais ce traité permet de faire avancer l'Europe. » Par cette petite phrase, on voit bien que quand il s'agit d'Europe, les procédures démocratiques n'ont plus cours. Il faut sortir l'Europe de ce no man's land, là, de ce vortex où les procédures démocratiques n'ont plus cours. Alors là, faut être très clair. On peut être pour ou contre ce traité, c'est plus la question. La question, là, c'est le respect de la souveraineté populaire. Les électeurs français se sont prononcés il y a 3 ans par référendum. Le nouveau texte, qui est exactement le même, ne peut être accepté ou rejeté que par référendum.
Oui, je crois qu'il faut insister sur ce point-là qui concerne la souveraineté populaire, parce que dans le cas de Maastricht, comme dans le cas du traité constitutionnel européen, il y avait eu un vote à Versailles des députés et des sénateurs, et dans un cas comme dans l'autre, il y avait eu 90% des parlementaires qui avaient voté en faveur donc de la transformation de la ratification constitutionnelle. Pour Maastricht, on avait vu quand même qu'il y avait eu près de 49% de non. Dans le cas du traité constitutionnel européen, il y a eu près de 55% de non. Et qui intervenait à l'issue d'une campagne passionnée, avec un taux de participation record. Et là, c'est en quelque sorte en catimini qu'on va défaire l'expression populaire. Et je crois que là, il y a quand même un problème qui est considérable. Et il est encore aggravé quand on entend un certain nombre de responsables, y compris à gauche, nous dire que dès lors que Nicolas Sarkozy avait dit pendant sa campagne qu'il ferait un traité simplifié et qu'il n'y aurait pas de référendum, eh ben, il n'y a plus à en discuter. Il me semble que lorsqu'il s'agit des contre-réformes libérales de Nicolas Sarkozy, qu'il avait également promises dans le cadre de sa campagne, vous n'entendez pas, et c'est heureux, les responsables de gauche vous dire que pendant 5 ans, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à lui laisser les clés de la maison.
Vous avez voté pour lui.
Vous avez voté pour lui, il fait ce qu'il veut.
Juste une phrase dans le même esprit, pour dire, moi j'ai entendu hier matin sur votre antenne un dirigeant socialiste, qui est pour le traité. Je ne conteste pas son droit à être pour le traité. On peut être pour, on peut être contre.
C'était Pierre Moscovici au 7-10.
Pierre Moscovici, voilà. Et il était en train de nous expliquer qu'il protestait contre le fait qu'il n'y ait pas de référendum. Et dans la phrase qui suivait, il expliquait qu'il allait s'abstenir sur la révision constitutionnelle de telle manière qu'il n'y ait pas de référendum. Alors, on ne comprend plus. Ou bien il souhaite, et avec lui le Parti Socialiste, qu'il y ait un référendum, auquel cas, pourquoi ne pas aller voter contre la révision constitutionnelle, ou bien on vote pour la révision constitutionnelle, mais à ce moment-là, on ne peut pas nous dire qu'on exige un référendum. Il y a quelque chose qui rend, je suis d'accord avec Anne-Cécile sur cette question européenne, les gens perdent toute mesure et toute raison. On est dans une espèce d'exception permanente à la règle.
Merci à tous.
Voilà, merci à tous. Merci à Agnès Suramonet, Serge Halimi, Dominique Vidal, Anne-Cécile Robert et Philippe Descamps. Vous avez compris, c'était l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois-ci, avec beaucoup de sujets qui ne sont pas dans le diplôme, mais il y a des sujets qui sont dans le diplôme dont on n'a pas parlé. C'était un entretien réalisé par Guy Van Cotil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org. www.la-bas.org, la-bas.org, suis-je clair, où vous pouvez écouter nombre de numéros de La Bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Aurélie Fortin et Patrick Henry, c'est Koy Nguyen et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission. Le plan où ça braille beaucoup, vous savez. À chaque fois ce que c'est. C'est une traduction par l'équipe de La Bas si j'y suis, par Renaud Lambert et Pascal Pascariello, d'une émission qu'on peut voir sur NCBC. Ça braille comme ça, c'est-à-dire que c'est... Ça braille un peu plus que sur certaines émissions de radio que vous pouvez écouter le vers midi en France. Charlotte Perry est en charge du répondeur de La Bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. C'est le moment que vous attendez, celui de la réclame.